La première fois que j'ai commandé dans le métier, que j'ai fait avancer un train, donc que j'ai tractionné, c'est vrai que ça a été beaucoup d'adrénaline, quoi, de sentir une Z50 en double rame, c'est quelque chose comme 400 tonnes. Et c'est vraiment impressionnant de se dire, je fais avancer ça, il y a des vrais gens derrière. J'ai la responsabilité des voyageurs dans le train, c'est pas anodin ce que je fais.
C'est une formation exigeante et technique, avec une somme considérable de connaissances à acquérir. Pour un métier qui a même son vocabulaire propre, vous l'entendrez, et surtout qui nous concerne tous à un moment ou à un autre, c'est le métier de conducteur de train. Ils sont 13 500 en France, ils transportent chaque jour 5 millions de passagers, dont 3,5 millions en Île-de-France. La SNCF en forme chaque année entre 500 et 1000 en fonction des besoins. Ils apprennent la sécurité, ils apprennent la ponctualité, et à faire face à tous les incidents possibles et imaginables. Des fautes de freinage, perte de puissance, panne informatique ou encore le déclenchement d'un signal d'alarme.
Tous mes collègues de formation, on a tous à un moment donné eu ce petit doute, cette petite interrogation, de se dire est-ce que je vais réussir à assimiler tout ce qu'il faut connaître. Finalement, avec de la méthode, avec du travail, suffit d'avoir de la rigueur.
Il faut 6 mois à 1 an pour former un conducteur de train sur les lignes régionales, nationales ou de fret. Et il faut 10 ans d'expérience et 3 mois de formation supplémentaire pour espérer prendre les commandes d'un TGV, le poste le plus prestigieux, une sorte d'accomplissement pour ces conducteurs. Dans un train à grande vitesse, à 300 km/h, la vision humaine ne nous permet pas d'enregistrer une signalisation en bord de voie. À 300 km/h, l'erreur est interdite. Nous allons vous faire découvrir comment sont formés ceux qui tiennent nos vies de passagers entre leurs mains.
C'était mon rêve d'enfant. Il n'y a pas une seule fois où quand je monte dans un train, dans une cabine, je ne me dis pas « rappelle-toi l'enfant que t'étais et t'y es là ». Voilà. Donc c'est pourquoi tu es là. Et c'est un peu ce que je leur dis. Tous, c'était bien évidemment tous, c'était pas leur rêve d'enfant. Mais par contre, soyez conscients de la chance que vous avez. Tout le monde ne conduit pas le TGV.
Pour débuter ce reportage, nous vous emmenons en banlieue parisienne, à Villeneuve-Saint-Georges, au Technicentre Sud-Est européen. L'endroit sert à la formation des futurs conducteurs de train à grande vitesse. C'est ici qu'est entretenue une partie de la flotte des TGV. À l'école des conducteurs de train, c'est un reportage de Raphaël Ebenstein avec Hélène Langlois à la prise de son.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Attention bordure, on va juste se mettre de ce côté-là. Ici, c'est toutes les machines qui font la relation Paris-Nevers, Paris-Clermont-Ferrand. Donc les conducteurs qui veulent accéder au TGV, ils doivent justifier d'au moins 8 ans de conduite dans la conduite de train, que ce soit Transilien, TER. Et après, ils doivent avoir effectué des parcours sur des relations type intercité pendant au moins 1 an.
Je suis Antoine Leroy, cadre traction. Formateur TGV. Je travaille à la SNCF depuis 13 ans et je suis sur Gare de Lyon depuis 10 ans et j'ai participé à la formation de 4 conducteurs TGV.
Une fois qu'on a un an de conduite à 160 et 200 km/h, on peut accéder à la formation TGV. Et c'est ce qu'a fait Nicolas.
Là sur le bord des voies, on vient de voir passer effectivement des trains intercités que vous conduisez depuis une dizaine d'années. Nicolas, vous êtes rentré quand à la SNCF? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une vocation déjà de départ?
C'est exactement ça en fait, c'était une vocation. Depuis tout petit, je voulais conduire des trains. J'étais parti sur une filiale de menuiserie professionnelle. Et un jour, un copain à moi a passé les tests pour devenir conducteur et je me suis renseigné. Et lui, il s'avère qu'il a raté ces tests-là. Moi, je les ai passés, je les ai réussis. Et je suis arrivé donc à Gare de Lyon en 2005. J'avais encore 18 ans. Et finalement, j'ai grandi au chemin de fer. Et donc, je suis arrivé. Donc, je suis toujours à Gare de Lyon. Hein, et voilà, j'ai fait mon chemin, j'ai rencontré du monde.
Il y a une histoire familiale, il y a des raisons, objectifs, je ne sais pas.
Oui, il y a mon grand-père qui était cheminot. Alors je lui piquais ses vies du rail en cachette en pensant que c'était un trésor. Alors que lui, il les lisait même plus, il était à la retraite hein, déjà depuis bien longtemps. Et puis comme tout petit garçon, j'ai eu un TGV, la Jouef, la Orange, que je faisais tourner sur la table du salon. J'adorais les trains, quoi. Et puis, mais vraiment, à l'adolescence, j'avais un peu quitté cette envie d'être conducteur parce que ça me paraissait un peu inatteignable. Et c'est le destin. Moi, vraiment, je pense que c'est le destin. Je suis devenu conducteur. C'est un rêve de gosse et voilà, je suis vraiment content et fier d'avoir fait ce métier.
Je vais juste dire bonjour au monsieur, je vous laisse là.
Pourquoi avoir choisi de passer quand même cette formation difficile de conducteur de TGV? Qu'est-ce qui vous a poussé au bout d'une quinzaine d'années à la SNCF de passer ce cap?
C'est une suite logique pour moi, personnellement. Je pense qu'un conducteur, il y en a beaucoup qui veulent accéder au TGV. Le TGV, c'est une fierté. On en rigole des fois avec les collègues, on parle de galons, de choses comme ça, hein, avec toute humilité, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas plus compliqué à conduire qu'un autre train. Par contre, il faut se maintenir dans ses connaissances de train classique. Et en plus, on acquiert une nouvelle réglementation, une nouvelle gestion du stress. Donc c'est valorisant.
Vous avez une femme, des enfants. Le fait d'être conducteur de TGV, ça signifie forcément des déplacements plus longs. Le fait de rentrer moins souvent chez soi, c'est un rythme de vie qui est quand même difficile.
Ça fait partie aussi de la pré-formation, entre guillemets, à la maison. On en parle déjà parce que ça se décide à deux, hein, en couple. Hein. Ou en famille, et on part plus loin, on part plus longtemps. Déjà que c'est un métier qui est très prenant, sans parler du TGV, même sur les trains grandes lignes ou transiliens, parce qu'on est amené à faire des déplacements, ce qu'on appelle des découchés, où on dort dans des foyers ou des hôtels. Et ben là, c'est pareil, hein, mais c'est avec peut-être des journées un peu plus longues, des plus grosses distances, donc ouais, ça joue quand même sur la vie privée. Hein.
Votre épouse, vos enfants, ils vous ont encouragé?
Ils m'ont vraiment encouragé à 100%. Vraiment, je l'aurais pas fait de toute façon si je sentais que ça collait pas. Donc ça s'est décidé vraiment en famille. Hein. Ils m'ont motivé, ils m'ont poussé hein, vraiment à leur façon. Et puis c'est une fierté pour eux aussi, en fait. Donc, ils savent que c'est ma passion, ils savent que j'adore ça. Donc voilà.
S'imaginer peut-être que vos enfants, un jour justement, vous leur transmettiez cette passion et qu'un jour, à leur tour, ils soient conducteurs de train, conducteurs de TGV?
Bah c'est fait en fait, c'est déjà fait. Moi, mes fils adorent les trains. Ils adorent ça, et vraiment. Et j'ai surtout le plus grand qui ne parle que de train à la maison. C'est très dur pour ma femme en fait, au final, parce que ma femme, elle entend parler de stress, de TGV. Là, ça fait 4 mois que je lui parle de TGV tous les jours. Et avec mon fils, quand je suis pas là, mon fils, il lui parle de quoi? De train, de TGV, de voilà. Donc... On vit train à la maison en fait.
Là ici on est au TS2E, Technicentre Sud-Est Européen, qui entretient une partie de la flotte de TGV sur l'axe sud-est. Donc l'axe sud-est c'est assez étendu, hein. Ça va jusqu'à Nice, Perpignan, et puis avec des certes de la Suisse, de l'Italie aussi. Donc en fait, quand les conducteurs et les chefs de bord, les contrôleurs sont formés, on vient ici en statique sur les rames pour les faire réviser. Et le but du jeu, c'est de leur dire, voilà, là, aujourd'hui, la formation, c'est le lieu, c'est le moment où vous pouvez vous tromper et apprendre. Il y a encore une vingtaine d'années à la SNCF, c'était surtout dans nos métiers à la traction, on n'avait pas le droit à l'erreur. Pendant la formation, il y avait un côté un peu jugement, donc ça, on l'a complètement dédramatisé et enlevé de la formation. En tant que formateur, moi, j'ai vraiment été vigilant à ce qu'ils ne se sentent pas ni jugés, ni stressés par le fait d'apprendre. C'est tout nouveau pour eux. Donc le but, c'était justement de démystifier la rame TGV. Une rame TGV, c'est quand même 200 mètres de long, 400 tonnes. Il y a des robinets partout, il y a des appareillages partout, en cabine, dans les motrices. Le but, c'est qu'un conducteur qui a l'examen, qui est qualifié pour le TGV, il soit à l'aise lors d'un incident. Le but ultime étant vraiment d'éviter ce qu'on appelle la demande de secours. Du temps de la vapeur, on appelait ça jeter le feu. J'ai jeté le feu, ça veut dire j'ai jeté le feu, on vidangeait les braises en fait, et puis on attendait que quelqu'un vienne nous secourir. Et au TGV, comme sur n'importe quel train, il y a toujours cette procédure de demande de secours. Et pour nous, c'est vraiment même si ça ne devrait pas, c'est encore vécu comme un échec. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé au bout de ce qu'on voulait faire, on n'a pas réussi à sauver le train. Ça, c'est vraiment quelque chose de très ancré dans le monde des conducteurs. et c'est dire si on veut amener le train au bout. Et donc on a cette, dans cette formation, le but c'est d'éviter d'aller jusqu'à la demande de secours.
C'est quel type d'incident, j'allais dire mineur, qui peuvent survenir et que le conducteur peut lui-même réparer?
Alors très concrètement, ça peut être un problème de frein. On peut avoir des pannes informatiques, on peut avoir des pannes de porte, on peut avoir des pannes de suspension, on peut avoir de la perte de puissance. Le conducteur, en cours de route, il va pouvoir gérer des pannes à distance avec l'ordinateur de bord. Et parfois, c'est un peu ce qui est frustrant, c'est-à-dire qu'on fait un trajet Nice-Paris, on va avoir des pannes à gérer tout en situation de conduite, et puis on va arriver à l'heure au butoir à Gare de Lyon. On est content parce qu'on s'est battu et on a réussi à traiter les pannes et les incidents. Et puis en fait, les gens descendent du train comme si de rien n'était. Bon, il y a cette petite frustration parce qu'on s'est battu pour eux, mais c'est normal, ils ne peuvent pas le savoir. Tout est nouveau pour eux. Ils ont une base de connaissances de par leur métier de conducteur. Ce qu'on va leur demander en formation TGV, c'est de connaître des nouveaux engins qu'ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire tout le parc, toute la flotte TGV. D'apprendre une nouvelle réglementation, donc tout ce qui est lié à la signalisation de cabine, c'est-à-dire qu'au-dessus de 220 km/h, on ne va plus avoir de feu rouge, de feu vert, puisque les vitesses ne permettent pas à l'œil humain d'analyser ce que la signalisation nous présente. Ça va être ce qu'on appelle la signalisation de cabine. Donc tout va être reporté à bord, toutes les informations de vitesse, et donc il y a une réglementation propre et des procédures propres liées à cette signalisation de cabine. Et ensuite, il y a tout ce qui est infrastructure, sécurité du personnel. Il y a des règles qui s'appliquent sur la ligne à grande vitesse qui ne s'appliquent pas sur la ligne dite conventionnelle. La ligne conventionnelle, c'est tout ce qui est réseau classique. Au cours de la formation, il y aura des évaluations chaque semaine et des passages au simulateur. Et au bout de 4 mois, c'est sanctionné par le passage d'un examen pratique. Donc le stagiaire futur TGViste, comme on dit chez nous, conducteur TGV, on les surnomme les TGVistes, il va faire un train tout seul avec un examinateur et puis il va y avoir des situations qu'il va devoir gérer et il va mettre en pratique tout ce qu'il a vu pendant ses mois de formation. Et le lendemain, on va lui faire passer aussi un oral de environ 3 heures.
J'aime bien, il y a un petit peu de jargon quand vous dites faire un train, ça c'est vraiment l'expression cheminote.
Mais on a plein d'expressions cheminote, faire un train, se faire toller. Par exemple, un conducteur, quand on dit je me suis fait toller, ça date de la vapeur. À l'époque, il n'y avait pas de signaux lumineux, c'était des signaux mécaniques et un signal d'arrêt qui était de forme carrée, on appelait ça une tôle. Et encore aujourd'hui, c'est dans le jargon des conducteurs, je me suis fait toller ou l'aiguilleur m'a tollé, ça veut dire il m'a ralenti, il m'a arrêté. Pareil, les conducteurs, même au TGV encore, on appelle ça des mécaniciens, des mécanos, même si dans les termes réglementaires, on parle d'agent de conduite ou de conducteur. Entre nous, on appelle ça des mécanos, mécaniciens. Alors mécanicien, c'est pas celui qui répare la locomotive. Tout simplement, ça date de l'époque de la vapeur, où il y avait le chauffeur qui assurait la chauffe avec du charbon ou du fioul, parce qu'il y avait quand même des machines à vapeur au fioul. Et à la côté, il y avait le mécanicien qui, lui, s'occupait de la partie vraiment technique, conduite à proprement parler, la gestion de la vitesse, le freinage, etc. Et cette expression de mécanicien est restée. Et c'est vrai qu'on a plein d'expressions qui datent du temps de la vapeur. Ça ne veut pas dire qu'on est passéiste, mais ça veut dire qu'on a vraiment cette fibre, cette ADN et cet héritage qui est très marqué chez nous.
Je vous amène
derrière.
On est devant la rame de TGV.
Ouais. Le Graal, l'aboutissement.
Du coup, je vais vous faire rentrer par derrière. Voilà, on va monter. Allez.
Hop. Ne salis pas non plus. C'est un peu comme un sous-marin. Hein. Voilà la cabine.
Allez, on va se mettre en situation. Donc on part du principe que tu roules.
On roule.
Donc pour simuler l'exercice, là, ce qu'on va faire, c'est que Tiffany va tirer un signal d'alarme. On aura les bips en cabine. Et comme ça, tu le tires juste. Hein. D'accord. Et ça suffit, tu le tires à fond. Allez, on est parti.
Voilà, super.
Bon, génial. Donc là, tes indices, c'est conforme à ce que t'attendais ?
Bah c'est ça, c'est tout ça. C'est la dépression, j'ai l'image LSSIL et combiné à un radio, à un voyageur et top solo.
Alors tu vois là, le bip, on l'entend bien et c'est quelque chose qui a tendance à rajouter de la pression. Soit tu roules, tu vas gérer. Alors moi, ce que je te conseille, c'est si tu as 300, tout de suite, tu casses ta vitesse, tu te mets à 100, tu fais le point avec le contrôleur. Parfois, il est peut-être en train de renseigner un voyageur, le signal d'alarme, il est à l'autre bout du train. Donc lui, il va aller voir ce qui se passe. Mais au moins, tu es en sécurité. Si tu as besoin de t'arrêter tout de suite, tu n'es pas à 300, tu as déjà une marge de sécurité. Si tu es à l'arrêt, qu'est-ce que tu fais ? Tu es en W.
Eh bien, à l'arrêt, il va falloir aller réarmer. Ouais. Donc, quand tu es tout seul.
Alors, comment tu sais où il est le signal d'alarme ?
Donc là, je vais pouvoir localiser à l'aide du SIAC.
Vas-y.
Avec la touche J. Donc, localisation alarme voyageur porte. Donc là, j'ai bien mise en action d'une alarme voyageur en R8, remorque 8.
Alors, explique-moi comment tu éteins ces foutus bip maintenant. Ce qui peut se passer, c'est que si dans la précipitation, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important de bien lire et de bien prendre son temps, de décomposer ses actions, si tu vas trop vite et que par exemple tu prends un appel radio ou un appel interphonie avant d'avoir à quitter, les bips ne s'arrêteront pas.
Ça ne s'arrêteront pas.
Voilà. Ok, exercice terminé. On va retourner pour faire le débrief en salle voyageur.
Ça marche.
On a vu l'exercice avec le signal d'alarme. Nicolas, vous aviez encore tout en tête ou quelques hésitations ? Comment ça s'est passé selon vous ?
Oui, des fois, quelques hésitations, ça c'est normal. Et puis oui, j'en ai eu un peu là sur. Des fois on se rappelle pas toujours tout à l'instant T, même en ligne, hein, une fois qu'on est formé, mais quand même il faut retomber sur nos pattes en fait. Le principal c'est de retomber sur ses pattes et de se rendre compte qu'on a oublié quelque chose. Quoi.
T'es formateur, satisfait de l'exercice, satisfait de l'élève ?
Ouais, je suis satisfait. Nicolas, ça fait partie vraiment de ceux qui... Voilà, on voyait que c'était quelque chose qui était ancré depuis longtemps chez lui. Je sais à quel point c'était fort chez lui et à quel point il y avait cette volonté d'accéder au TGV. Alors justement, parfois, c'est même encore plus dur pour ce type de population parce qu'ils se mettent une telle pression que le moindre échec ou la moindre, on va dire, contre-performance dans une formation où on nous demande de nous investir, il y a toujours des moments où on fait des contre-performances. On a le niveau, mais ce jour-là, le jour de l'évaluation, c'est pas ce qu'on s'est montré. Concernant Nicolas, c'est vrai que toutes les évaluations étaient extrêmement rigoureuses. Je repense toujours à l'enfant que j'étais. On en a parlé tout à l'heure avec Nicolas. Nicolas, c'était son rêve d'enfant. Moi, c'était mon rêve d'enfant. Il n'y a pas une seule fois où, quand je monte dans un train, dans une cabine, je me dis pas, rappelle-toi l'enfant que t'étais et t'y es là. Voilà, donc c'est pourquoi tu es là, et c'est un peu ce que je leur dis. Tous, c'était bien évidemment tous, c'était pas leur rêve d'enfant, mais par contre, soyez conscients de la chance que vous avez. Tout le monde ne conduit pas le TGV.
On part Gare Saint-Lazare à Paris où se déroule la formation pratique des débutants, ceux qui souhaitent devenir conducteurs de trains régionaux, une formation qui n'en est pas moins difficile. On va faire la connaissance de Caroline, une élève en reconversion professionnelle.
Un petit point secret de la Gare Saint-Lazare.
Il y a plein de portes dérobées comme ça. En fait, on reconnaît avec les passes Carmignon. Il y a des badges pour pouvoir entrer à la maison. Quatrième étage, du coup.
Alors, bonjour, je m'appelle Damien Nirlo. Je suis entré à la SNCF en 2002, conducteur depuis 2003. Moniteur, ça fait 16 ans que je suis moniteur. Donc j'ai eu quelques élèves, quelques-uns. Ouais.
Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 31 ans. Et dans le monde d'avant, j'étais hôtesse de l'air. Je travaillais pour une compagnie britannique basée à Londres et je faisais la navette entre Paris et Londres. Et en 2020, on va pas revenir sur les détails, mais le monde de l'aérien s'est retrouvé vraiment sans dessus dessous. Et pour cette raison et quelques autres, en fait, j'avais plus trop ma place dans cet univers. Donc, je suis allée voir une de mes meilleures amies qui travaille déjà à la SNCF et je lui ai dit, je sais plus quoi faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire. Et elle me dit, mais je pense que tu devrais essayer la conduite des trains. Elle me dit, ça recrute. Et elle me dit, je pense que t'as le caractère pour, je pense que t'as les qualités pour, t'as un parcours, tu sais te débrouiller. Elle me dit, je pense que t'as ta place et tu devrais essayer.
C'est plus un hasard qu'une vocation première, c'est pas un rêve d'enfant à la base, les trains ?
Non, pas vraiment. Moi, ma vocation, c'était hôtesse de l'air, justement. Mais en fait, c'est plus une heureuse coïncidence, une heureuse opportunité, puisque depuis que j'ai commencé, je m'amuse vraiment. Je m'attendais pas à être autant passionnée par la conduite et par le monde ferroviaire. Mais en l'occurrence, je prends plaisir tous les jours. Dès que je fais démarrer un train, dès que je fais avancer un train, j'ai cet adrénaline en me disant je fais avancer un train de plusieurs centaines de tonnes, quoi.
Quand, je sais pas, vos proches, votre famille, quand vous leur avez dit je vais peut-être me reconvertir, je vais passer de l'avion au train, quelles ont été les réactions ? Vous avez été encouragé, soutenu, ou il y a eu de la surprise par rapport à ce choix ?
Ça a été plus positif que ce à quoi je m'attendais. Ça a été un peu la surprise chez certains, mais je pense que par rapport au parcours que j'ai eu dans le passé, ça surprenait personne que je me lance dans des aventures un peu folles, entre guillemets. Ça a été quand même un peu le soulagement de savoir que je revenais les pieds sur terre, quand même, en termes de sécurité de la part de ma famille. Non, j'ai été très bien soutenue, très bien entourée et très bien encouragée. Et je pense que c'est pour ça aussi que pour l'instant, mon parcours se passe aussi bien. C'est que j'ai vraiment beaucoup de gens autour de moi sur qui je peux m'appuyer et qui m'aident à tenir le coup quand ça devient un petit peu difficile par moment.
Justement, avant, vous n'aviez pas cette culture cheminote, entre guillemets. Quand on déboule comme ça, en reconversion, c'est pas trop dur ?
C'est quand même un challenge en ce qui me concerne. Je viens pas du milieu technique et même si c'est beaucoup moins technique qu'avant, il reste quand même un petit peu de technique et il y a beaucoup de logique à avoir. Ça a été un peu comme apprendre un nouveau langage. On nous apprenait le langage de la signalisation, le langage technique, les cheminots, la terminologie. Et à partir de là, une fois qu'on avait ces bases, c'est vraiment cette impression. Et une fois qu'on a eu les bases, c'est une nouvelle lecture de beaucoup de choses quand on s'approche d'un train. La première fois que j'ai commandé dans le métier, que j'ai fait avancer un train, donc que j'ai tractionné, c'est vrai que ça a été beaucoup d'adrénaline, quoi, de sentir une Z50 en double rame, c'est quelque chose comme 400 tonnes. Et c'est vraiment impressionnant de se dire, je fais avancer ça, il y a des vrais gens derrière qui vont vraiment à leur travail et c'est moi qui les fais avancer. On les a pas prévenus. Il y a quand même toujours un petit peu cette excitation de petite fille. De dire, oulala, ça avance quand même. C'est moi qui suis en charge. J'ai la responsabilité des voyageurs dans le train, c'est pas anodin ce que je fais.
Ça a joué aussi d'ailleurs dans votre motivation pour ce métier, c'est de savoir que vous rendez service.
Oui, absolument. Je pense qu'avec les circonstances dans lesquelles on s'est tous retrouvés, j'avais envie de revenir à quelque chose d'un peu plus essentiel, de faire quelque chose de plus utile. Hôtesse de l'air, c'était ma passion, mais j'avais envie de servir un petit peu, peut-être pour caricaturer, mais servir une frange un petit peu plus large de la population, de faire un métier plus utile, un petit peu plus essentiel. Et ça en fait partie quand on fait l'heure de pointe sur un Cergy, qu'on voit le nombre de personnes en cabine, on se dit oui, heureusement que je suis là, je sais qu'on est utile, je sais que j'amène beaucoup de gens, je transporte des gens, je suis là, ils sont contents de voir arriver le train. Ça a fait partie, ça a été un facteur de me dire j'ai envie de faire quelque chose de plus utile, qui serve un petit peu plus les gens.
Nous sommes en gare Saint-Lazare, on suit Damien et Caroline, la voie 12, conduire le train jusqu'à Hermont-Aubonne. On va donc les suivre, monter dans la cabine.
Allez, c'est parti.
Pour prendre poste. Pantographe, c'est bon. Fermé. Hop. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce Transilien à ligne J à destination de Hermont-Aubonne. Il desservira toutes les gares entre Asnières-sur-Seine et Hermont-Aubonne, son terminus. Je vous rappelle que le port du masque est obligatoire et qu'il doit couvrir le nez et la bouche. Je vous souhaite une bonne journée et un bon voyage. Sonorisation, ça marche.
C'est bon.
Voilà, signal ouvert, on est bon. On n'a plus que
le
serrage. C'est parti. Prochain arrêt, Asnières-sur-Seine. Transition de vitesse.
Encore aller sur le 3 là ?
Oui, je peux reprendre l'aiguille. Non, je peux pas. Je peux prendre que du. Je peux aller du 3 au 4. Mais je peux pas aller du 4 au 3.
Sûr ?
Ouais.
D'accord. Un joli rappel, là.
Voilà.
Ouais.
Ah oui, je l'avais oublié, c'était lui. Ah ben oui, non, tu peux. Okay.
Non, tu peux.
Mais en fait, je voyais celle-là et je visualisais plus celle-là.
Tu peux aller du 34, mais tu peux aller aussi du 4 au 3.
Ah ouais, c'est pas grave, d'accord. Right on time.
Ce train a pour destination Ermont-Aubonne.
Tout le monde est monté, c'est bon. Fermeture des portes. Oh, je peux y aller.
Si tu passes ce signal.
Ouais.
Et. Ah, il répète, à voie libre.
Il répète et il est en voie libre.
Voilà.
Ça, c'est une anomalie de répétition, donc ouais. Je tape l'urgence, BPE, j'arrête d'urgence.
Ouais.
Attends, je finis ma transition de vitesse.
Vas-y, fais ce que t'as à faire. On a le temps.
Ouais, ouais, ouais. Non, je vais pas m'occuper de la transition. Oui, donc arrêt d'urgence, signaler anomalie et marcher à vue sur la DCO à partir du point d'arrêt.
Ok.
Et puis faire attention, redoubler d'attention sur la répétition des signaux et redoubler d'attention au passage des signaux pour bien vérifier leur répétition ou leur absence de répétition. Mesdames et messieurs, notre train va devoir rester arrêté quelques minutes en gare de Sannois, ceci pour des raisons de régulation de la circulation. Je vous remercie de votre patience.
Très bien. Très bonne annonce. Oh là.
Oh non, il a bloqué la porte.
Là, ce qu'on voulait. C'est bon.
Bon.
Il avait bloqué la porte avec son vélo.
Ah, j'espère que... Je suis pas sûre que la roue elle est appréciée. Hein.
C'est
voilà.
Bon.
Les
portes sont fermées.
Et portes sont fermées. Et... Signal et tout. Ah oui, c'est un PL, tout ça, c'est bon.
Prochain arrêt, Ermont-Aubonne. Terminus des trains.
Et voilà, terminus, tout le monde descend. Alors, ajouter ce train VS, c'est bon. Tac, tac. Ça, c'est bon. Un temps de service. Paf. Pouf.
Okay. Les élèves conducteurs alternent cours et mise en pratique. En cabine de train, mais aussi, car il faut bien en passer par là, en salle de classe pour la théorie ou sur simulateur, capable de reproduire la plupart des cabines de pilotage des trains en circulation sur nos voies.
Okay, donc là, j'ai une chute CG, je ramène la manipulation à zéro.
La SNCF a 8 centres de formation en France. Hélène Langlois et Raphaël Ebenstein sont allés à Rennes, en Bretagne.
Interception sur France Inter.
Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous desservirons la gare de Rennes. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Les points de garde à l'intervalle entre le marchepied et lequel lors de votre descente.
Je vais découvrir le centre, si vous voulez, merci. Le rez-de-chaussée. Donc, je suis Franck Loréry, je suis le responsable du centre de formation, le campus de Rennes, qui est au sein de l'UNFT, qui est la division formation, qui regroupe 8 campus sur l'ensemble de la France, Rennes étant un des campus. Donc là, il a fait partie des rénovations, on est en train de rénover à peu près tous les centres de France. Donc ici, la grande pièce qu'elle a, elle est prévue pour recevoir un simulateur. Au bout là-bas, j'ai une salle aussi qui forme les gestionnaires des moyens. Ce sont ceux qui vont être amenés à notamment commander des conducteurs sur les trains ou affecter les machines sur les trains, etc. Donc ici, j'ai une formation qui est en cours. Là. En haut, c'est des salles. Et ici, on va avoir l'espace simulation. Donc on a 4 cabines. Ces 4 cabines peuvent reproduire 3 types de trains, le TGV, un train TER et une locomotive. Il suffit de changer des pupitres. Et puis, du coup, on passe d'un modèle train à un autre modèle train, ce qui permet de répondre au mieux à la demande de formation par rapport à l'ensemble des trains qui peuvent circuler. Voilà. Et vous avez une salle dans laquelle vous avez vos stagiaires qui vous attendent, qui est juste ici.
Alors, suite à la résistance à l'avancement qu'on a vu jusque-là, on a pu déterminer grâce au sondage frein qu'on pouvait avoir une fuite CG. On va voir maintenant comment rechercher et remédier à la fuite CG. Alors pour vous, quelles sont les causes possibles d'une fuite CG?
Une fuite au niveau des fenêtres.
Ouais, par du cylindre de fin. Clôture d'atelage.
Robinet d'arrêt ouvert. Fermé, pardon.
Robinet d'arrêt fermé.
CF. L'arrêt fermé. On a vu hier, hein, pour les robinets d'arrêt fermés, pas tous. Ah, on a fait le dessin.
À l'avant, oui, à
ouais,
on va refaire le dessin.
À l'avant.
Ouais,
à l'avant d'un véhicule.
À l'avant d'un véhicule. C'est ça, c'est ça.
Vous m'avez dit, en cause possible, rupture d'attelage. Qu'est-ce qui peut encore être à l'origine du fuite CG?
Un accouplement qui est percé ou qui
ouais,
est désemparé.
Effectivement. Éclatement. Et ben, on va traiter tous ces cas un par un.
Après la théorie en salle de classe, les élèves conducteurs s'exercent sur des simulateurs. Ce sont de vastes cabines plongées dans la pénombre, avec un grand écran sur lequel défile le paysage. Et de part et d'autre, une multitude d'écrans de contrôle et de manettes qui reproduisent au mieux l'intérieur d'un poste de conduite, tant d'un train intercité que d'un TGV.
Tu rappuies encore après tout à l'heure sur la simule là. Donc t'as vu, hein, c'est vraiment 27-300, hein, t'as un manipulateur de traction, manipulateur de frein, hein, tu te repères un petit peu dessus, t'en avais déjà fait
oui.
En stage.
Ouais, ouais, j'en ai déjà fait. Ouais.
D'accord, donc là tu dois appuyer dessus ouais. Pour passer en traction, et puis bah, le frein, hein, c'est un type un peu PVL2, c'est un peu le principe.
Ok.
D'accord, t'as l'urgence à tout ce qu'il faut. Alors, si t'appuies à gauche,
donc là.
À gauche, et t'as que du voilà, tu vois ta caille. Okay. Et si tu veux baisser le volume, t'as juste à tourner un tout petit peu à la gauche, d'accord, voilà. Enfin, après tu mets pour toi, pour ton confort.
Ça, c'est bien.
Voilà. En plus, t'as pas de chance si pluie, neige. Les essuie-glaces, ils sont. Parce qu'il va falloir que je me perde, donc c'est pas ça. Ils doivent être à gauche, peut-être. Là.
Oui.
Tu les as là, en face. Ouais.
Ça.
Ouais. Vas-y, appuie une fois. Donc là, tu les as par intermittence. Petite vitesse en bas, grande vitesse à gauche.
Intermittence.
Tu vois, c'est plus lourd. Hein.
Zone 100, donc j'ai bien vérifié que je suis en dessous de 100, c'est bon. Je récupère la tension de ligne.
Donc là, c'est le locomotif, t'es pas obligé d'attendre un quart d'heure.
Donc, je vais faire le transporteur.
Voilà, autorisation de fermeture.
Zéro.
Ouais.
Je fais l'arrêt.
Okay.
Je mets le neutre.
Ton neutre, vas-y.
Je mets le neutre.
Et là, chute CG.
Chute CG, donc là je m'immobilise.
Ouais.
Là, qui inverse sa sens de marche. Zéro, annonce voyageur.
Alors là, quand tu pars. Je vais voir jusqu'où on va.
Ouais.
Je te dis ça tout de suite.
Alors, donc Yanis, 20 ans, j'ai fait par le passé des petits boulots d'étudiants. J'ai fait animateur en centre de loisirs, j'ai fait bagagiste à Roissy, j'ai fait manutentionnaire, plein de petits boulots à droite à gauche. À côté de ça, j'étais en licence d'informatique. Je faisais mes études, donc j'ai eu mon bac en 2018, un bac général scientifique. J'ai par la suite donc continué dans la suite un peu logique de mon bac, donc j'ai fait des études d'informatique en licence. Au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que c'était pas réellement ce que je voulais faire, donc je commençais un peu à chercher autre chose, une autre voie, quelque chose qui me plaisait plus. Et c'est là que du coup je suis un peu tombé sur une annonce conducteur de train à SNCF.
C'est du hasard ?
Totalement, c'était entièrement du hasard. C'était pas du tout une vocation d'enfant, j'y aurais jamais pensé. Voilà, en fait, je me suis renseigné un peu de moi-même sur Internet. Qu'est-ce que c'est que ce métier ? Au final, est-ce que ça me conviendrait ? Est-ce que je réponds déjà aux attentes de ce métier ? Est-ce que j'ai les épaules assez solides pour supporter la responsabilité de ce métier ? On se pose toutes ces questions, et puis après, au final, j'ai foncé, j'ai postulé, et puis du coup, voilà, ça fait depuis 7 ans que je suis en formation.
Les premiers jours, quand vous êtes arrivé en formation, vous vous êtes jamais dit « Ouh là là, c'est quand même... c'est raide, c'est vraiment dur, j'aurais peut-être pas dû... »
Tous mes collègues de formation, on a tous à un moment donné eu ce petit doute, cette petite interrogation, de se dire est-ce que je vais réussir à assimiler tout ce qu'il faut connaître. Finalement, quand on s'y met, quand on commence donc au fur et à mesure de la formation à apprendre petit à petit, on se dit que voilà, finalement, avec de la méthode, avec du travail, ça se fait tout seul en fait. Il y a juste à être rigoureux et puis finalement en fait c'est fait pour tout le monde. Il suffit d'avoir de la rigueur.
Nous sommes devant le siège de la Vie du Rail et on va rencontrer la rédactrice en chef de ce magazine mythique pour les cheminots, Marie-Hélène Point.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Marie-Hélène.
Ça va ?
Ça va, merci. Merci de nous
Bonjour.
Accueillir.
Eh bien, bienvenue. On va monter. Donc là, c'est la boutique de la Vie du Rail avec tous nos bouquins et nos magazines. Vous voyez tous les coins et les recoins.
Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Point. Je suis rédactrice en chef du magazine La Vie du Rail.
Culturellement, les conducteurs au sein de la SNCF, les roulants d'une manière générale, qu'est-ce qu'ils représentent ? Est-ce que c'est une catégorie un petit peu à part ?
Oui, bien sûr, les conducteurs au sein de l'entreprise, c'est un métier un petit peu à part. Hein. Alors, il n'y a pas qu'eux qui font tourner l'entreprise, mais symboliquement, hein, ils représentent la SNCF. Et puis, quand on est un conducteur de TGV, ben, quelque part, il y a quand même un peu le prestige, hein, puisque le TGV fait quand même encore rêver beaucoup de gens et fait rêver aussi les conducteurs de train. Et accessoirement, c'est aussi un poste qui est pas mal payé quand on arrive en fin de carrière, hein, puisqu'on peut toucher jusqu'à... 4000 euros net, donc en moyenne mensuelle, voilà, avec les primes comprises. Un débutant doit gagner entre 1500 et 2000 euros net. Et puis petit à petit, il y a toute une grille et puis des primes, hein, qui s'ajoutent et qui font que vous évoluez avec le temps. Mais en début de carrière, voilà, ils sont comme la moyenne des Français, un petit peu plus peut-être.
Est-ce que c'est encore un métier qui recrute et qui va recruter ?
En tout cas, le transport ferroviaire est dans l'air du temps. C'est un transport écologiquement vertueux. Donc, si, comme on peut l'espérer, le transport ferroviaire croît, qu'il y a de plus en plus de passagers qui prennent le train, si les marchandises montent aussi de plus en plus à bord de train, logiquement, on aura besoin de plus en plus de conducteurs de train. Et puis, avec l'ouverture à la concurrence, les régions qui sont en train d'ouvrir leur réseau de TER à la concurrence souhaitent plus de fréquences. Donc, tout ça fait qu'on peut penser que la demande en poste de conducteur va s'accroître. Et, conséquence, on peut penser que les entreprises de transport vont peut-être essayer de se piquer les conducteurs les unes aux autres. Et donc, quand il y a une forte demande, forcément, les salaires augmentent. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé récemment en Allemagne. Il y avait même une pénurie de conducteurs de train, parce que on met beaucoup de temps à former un conducteur, on met un an, voilà, c'est long, et donc les entreprises cherchaient des conducteurs, et donc il y a eu une hausse généralisée des salaires des conducteurs de train en Allemagne. On peut penser que la même chose pourrait se produire en France.
Est-ce que selon vous, il n'y a pas un petit malaise quand même en ce moment chez les conducteurs ?
Il y a sans doute un malaise chez les conducteurs actuellement, parce que d'une part, il y a eu beaucoup de changements, hein, des petits changements qui sont ajoutés les uns aux autres. Donc voilà, ça, c'est toujours perturbant dans votre travail quand on vous demande des choses nouvelles auxquelles vous n'êtes pas forcément habitué. Il y a aussi le sentiment, en tout cas pour les plus anciens, d'avoir appartenu à une entreprise de service public et aujourd'hui une entreprise vraiment tournée vers ses clients, donc changement culturel. Et puis effectivement, le grand saut dans l'inconnu, hein, avec l'ouverture à la concurrence qui s'annonce. Et en 2024-2025, voilà, on va voir les premiers cheminots qui vont être transférés dans une nouvelle entreprise. Et donc avec certainement des règles d'organisation du travail différentes. Donc voilà, c'est un peu l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer demain? Où vais-je travailler demain? Et toutes ces interrogations, on peut les comprendre, hein, parce que pour l'instant, il y a encore des négociations en plus en cours au sein de l'organisme professionnel patronal avec les organisations syndicales. Donc il y a encore des règles qui demandent à être établies. Et donc c'est tout cet inconnu qui crée un sentiment d'inquiétude, sinon de malaise.
Un mois après le tournage de ce reportage, Raphaël Ebenstein et Hélène Langlois ont voulu prendre des nouvelles de Caroline. Caroline, vous l'avez entendu dans ce sujet, c'est cette ancienne hôtesse de l'air d'une trentaine d'années qui s'est lancée dans cette formation de conducteur de train. La voilà donc maintenant, un mois plus tard et diplôme en poche, confrontée à la réalité de ce métier.
Nous sommes sur le parvis de la gare Saint-Lazare à Paris et on va aller retrouver Caroline qui a eu son examen de conductrice de train. Elle est aux commandes d'un Transilien en provenance de Cergy.
Ce premier mois, alors, difficile de faire peut-être un bilan complet, mais vous en ressortez comment ?
J'en ressors plus confiante que ce que je pensais. Parce que c'est vrai que le premier jour, ouais, je suis passée devant un poste d'aiguillage et j'avais limite envie de m'arrêter. Vous êtes sûr que je peux partir toute seule? Parce que c'est vraiment la première fois. Mais non, finalement, on se rend compte qu'on prend ses habitudes, en espérant qu'on en prend des bonnes, surtout dès le début. Mais ça va, je pensais que je serais plus paniquée et que j'aurais plus de problèmes que ça. Je touche du bois, pour l'instant, ça va. Et il y a évidemment, dès qu'on a un problème, on a toujours un collègue pas loin à qui on demande conseil. Je croise régulièrement d'anciens moniteurs, je croise mes formateurs d'entreprise aussi et j'ai toujours une ou deux questions à leur poser. Donc on a cette ressource permanente qui fait qu'on est jamais tout seul. Même après, on peut avoir 20 ans d'expérience, c'est toujours poser une question en se disant « mais comment toi tu appréhendes tel ou tel problème ?» quoi.
Comment ça se passe, vos rythmes de travail, tout, c'est parfois dur, vous commencez très tôt le matin.
Ouais, ben là j'ai fait où je finissais très tard le soir et ensuite maintenant je commence très tôt le matin. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle le service facultatif quand on commence. On prend un petit peu les journées que personne ne veut, où ils ont posé un congé, donc on récupère ces journées.
Vous n'avez pas peur d'une forme de routine ou qu'une lassitude puisse s'installer?
Je pense qu'à terme, dans quelques années, si, ça fera un petit peu partie de ça. Mais en fait, mine de rien, même de mon ancien boulot, quand je faisais 3 Buenos Aires à la suite, ça finissait par être routinier. Je sais que c'est horrible de dire ça. Bien sûr qu'il y aura une routine qui s'installe. Mais après, c'est un métier où la vigilance, elle est constante, où on peut pas juste se permettre de regarder en l'air. Il faut qu'on soit constamment à regarder. Donc, il y a routine et routine, quoi. C'est pas vraiment une vie routinière parce qu'un jour, on fait tôt le matin, ensuite, on fait tard le soir. Est-ce que le métier en lui-même peut être routinier? Oui, après, j'ai pas encore cette appréhension, j'ai pas encore été confrontée, mais clairement, oui, c'est quelque chose auquel je m'y attends. Après, à voir comment justement casser cette routine et garder la flamme.
Vous êtes en fin de service, vous avez quand même pas l'air fatigué, vous avez l'air d'avoir la pêche. Justement, il n'y a pas trop de fatigue quand même après ce premier mois?
Il y en a eu beaucoup au début, parce que quand la pression de la formation et l'examen est retombée, j'ai dormi pratiquement non-stop pendant 5 jours. Maintenant, ça va. Je trouve que je suis plus efficace le matin. Donc après, là, je sors d'une pointe où justement les horaires sont un peu serrés. Donc je suis un peu déjà sous cette adrénaline. Donc c'est pour ça que je suis assez réveillée. Si vous revenez me voir vers 14h, je serai comme une crêpe sur mon canapé. Mais... non, ça va. Après, c'est vrai, comme j'ai dit, c'est un métier que j'ai plaisir à faire. Donc voilà, je m'engage dedans. Je suis active et ça va. Je supporte plutôt bien les extrêmes matinées. Tant mieux parce que j'en ai encore une demain. Mais Non, ça va, puis je suis quelqu'un d'assez enthousiaste en général, donc j'arrive à, je me sers de ça pour me lever le matin. Je prends les choses une à une. J'ai eu l'examen, j'ai 2 ans de service fac, ce qu'on appelle le service fac, à faire avant de rentrer en roulement et d'avoir une vie plus posée. Donc voilà, je prends les choses comme elles viennent et puis on étudierait les options au fur et à mesure.
Voilà, bon, je transfère à destination de Nanterre Université.
Ouais, c'était mignon parce qu'on est arrêté en pleine voie, la signalisation nous avait arrêté, donc moi je fais une annonce, mesdames et messieurs, nous sommes arrêtés, enfin ici votre conductrice, nous sommes arrêtés, tout ça. On a arrêté quelques minutes, on finit par repartir, on arrive à Paris-Saint-Lazare et la porte de la cabine était ouverte. Et il y a une dame qui est venue avec sa petite de peut-être 5-6 ans et qui dit, tu vois, c'était bien une dame hein, qui conduisait, je te l'avais dit. Alors les deux étaient étonnées, donc elles m'ont posé des questions, je les ai regardées vite fait la cabine quand même pour voir comment c'était, parce que finalement les gens sont un petit peu curieux de comment ça fonctionne. Donc voilà, et la petite avait des étoiles dans les yeux et sa maman qui dit bah tu vas toi aussi tu pourras peut-être conduire des trains quand tu seras grande. Donc voilà, ça fait plaisir de se dire que bah pas qu'on crée des vocations mais que bah voilà c'est une possibilité finalement même pour une petite fille.
À l'école des conducteurs de train, c'était un reportage de Raphaël Ebenstein avec une prise de son d'Hélène Langlois. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Claude Nio. Reportage disponible à la réécoute dès maintenant sur franceinter.fr.